France Culture. Les nuits de France Culture.
On parle toujours des humains comme des êtres doués de raison. Ce serait cette même raison qui nous séparerait du reste du monde animal. Il y a pourtant une autre faculté essentielle qui se manifeste à toutes les époques, dans toutes les civilisations, même chez l'être le plus isolé qu'il soit, l'imagination. Si cette imagination est essentielle pour planifier, prévoir, rêver, elle est aussi une puissance créatrice. De rien, ou bien d'associations d'éléments déjà présents dans le réel, elle crée des êtres fantastiques qui, à défaut de se matérialiser de façon tangible, peuplent nos récits et nos légendes. Ces créatures, vieilles comme le monde, ce sont les animaux fantastiques auxquels Jacques Coget consacre une série de 5 épisodes pour le cabinet de curiosité. Dans ce premier volet, l'historien Michel Pastoureau, l'ethnologue Jean-Loïc Lequellec et le médiéviste Claude Lecouteux sont invités pour évoquer la naissance des premières bêtes fondatrices à intégrer cet étrange et merveilleux bestiaire. Une émission réalisée par Malika Meskache, diffusée pour la première fois le 23 février 1998 sur France Culture.
Dans ce pays, il y a des serpents et des dragons si grands qu'ils avalent des cerfs, si prestes qu'ils traversent la mer. Il y a un animal appelé Crocotte. Son avant-train est d'un âne, ses sabots sont ceux d'un cheval. Il a 2 rainures sur sa corne, des pattes de lion et sa gueule est fendue jusqu'aux oreilles. Là où se trouvent habituellement les dents, il n'y a que de l'os. Sa voix ressemble à celle de l'homme.
Des animaux fantastiques, aujourd'hui des créatures vieilles comme le monde. Bienvenue donc au pays des dragons et des crocottes, du griffon et de la leucocrotte, du basilic et du phénix, de la manticore, de la licorne, mais aussi dans un autre registre du marsupilami, du dahu ou du nasobème, voire même du yéti, de l'almasti ou du monstre du Loch Ness, tant chaque époque et chaque culture ont imaginé leurs propres monstres, puisant tour à tour dans leur environnement naturel, leurs références culturelles ou tout simplement leurs fantasmes pour fabriquer de l'animal fantastique, du grec fantastikos qui imagine des choses vaines, se crée des illusions. C'est dire si nous allons passer cette semaine en compagnie de créatures bizarres, parfois anecdotiques, mais toujours nécessaires, dans la mesure où elles nous renvoient une image de la création, dans laquelle l'homme a remplacé Dieu, révélant au passage ses penchants, ses travers et sa propre vision du monde, qui à bien y réfléchir en font sans doute la créature la plus extraordinaire de cette étrange bestiaire. Mais pour l'heure, et avant d'aborder ce qui passe pour être l'âge d'or du merveilleux, à savoir le monde médiéval, commençons donc par le commencement, c'est-à-dire les premières traces que nous ont laissées nos lointains ancêtres, puisque tout démarre au cours de la préhistoire, Jean-Loïc Lequellec.
Ah oui, on en trouve dès le Magdalénien, par exemple, hein, des animaux qui défient l'identification, hein, et qui la défient non pas parce qu'ils seraient mal dessinés, mal représentés, de manière un peu primitive ou quoi que ce soit du genre, mais parce que ils sont au contraire très bien dessinés, mais répondent visiblement à un codage qui nous échappe et se présentent sous forme d'animaux monstrueux. Notamment, je pense à un exemple dans la grotte des Trois Frères, où on a le fameux dit sorcier, qui est un être hybride, qui a un visage de strigidé, un visage de cette espèce de le Harfang des Neiges, hein, cette espèce de gros hibou des neiges. Il a donc son visage et ce visage-là de rapace. Donc, il a des grands bois de renne, il a des bras qui se terminent par des griffes de prédateurs, il a une queue qu'on a identifiée comme étant une queue de chien, il a un sexe qu'on a identifié comme étant un sexe de félin, enfin c'est un être composite qui correspond à rien de réel, mais qui est parfaitement bien dessiné. À la limite, on pourrait le reconnaître si on le voyait dans la nature. C'est vraiment à la fois réaliste, naturaliste, puisque chaque détail est parfaitement bien observé, et en même temps tout à fait fabuleux.
Mais c'est un hybride homme-animal, un hybride animal-animal ou véritablement un animal fantastique?
Alors celui-là paraît être un hybride homme-animal, mais il côtoie des hybrides animal-animal. Donc on a là visiblement quelque chose, un discours, quelque chose de l'ordre du mythologique. Ça peut pas être quelque chose de naturaliste, bien entendu. Bon, le fond de ce discours nous échappe, mais on sent bien que dès les plus anciennes manifestations de l'art sont préfigurées déjà toutes les représentations d'animaux fantastiques qu'on verra dans les œuvres jusqu'à nos jours.
La grotte des Trois Frères en Ariège, donc, c'est le seul exemple ou il y en a d'autres?
Oh, il y en a d'autres, en fait. Là, j'ai pris cet exemple parce que c'est l'art, un art paléolithique qui nous est proche, au moins dans l'espace. Mais partout dans le monde où on a des arts rupestres anciens, on a la même chose. La même chose avec des variantes locales, bien entendu. Les animaux utilisés pour fabriquer les hybrides sont des animaux locaux. Je pense, par exemple, en Libye, je connais un endroit où il y a représenté de manière, j'oserais dire, parfaitement naturaliste et parfaitement vériste, des animaux qui ont fait un corps d'autruche avec deux pattes d'autruche, une longue tête d'autruche qui se termine par une magnifique tête d'antilope. Le tout très, très bien dessiné. On croirait voir, vous savez, les dessins de Dali qui représentaient des éléphants en train de marcher avec de très longues pattes d'araignée. Le tout très bien dessiné, mais évidemment n'existant pas dans la nature, mais dessiné comme si ça existait dans la nature.
Et ensuite, parce qu'il semble que les civilisations qui vont laisser beaucoup plus de traces, je pense à la Mésopotamie, à l'Égypte, à la Grèce, on n'est plus le même type d'animal.
Ça dépend ce qu'on entend par animal fantastique, parce que là, on a parlé d'hybrides. Tous les animaux fantastiques ne sont pas des hybrides, bien entendu. Il y a des animaux fantastiques qui ne correspondent à rien de visible dans la nature, parfaitement fantastiques. Et puis, il y a des animaux, genre le dragon, par exemple. Mais il y a aussi des animaux qui sont des animaux naturels. Je pense au crapaud, par exemple, qui est un crapaud tout à fait ordinaire. Sauf que dans des traditions, des mythes, on nous explique que le crapaud est éternel. Qu'il ne meurt jamais. Il y a cette histoire, par exemple, de l'archéologue qui brise un fragment de la Grande Pyramide. Et là, à l'intérieur, dormait un crapaud qui se réveille et qui se met à marcher tranquillement. Preuve que les crapauds sont éternels. On a là quand même affaire, il me semble, à un animal à la fois réel et fantastique. Donc on a tout un tas de nuances entre l'animal parfaitement mythique, inobservable dans la nature, et puis l'animal observable dans la nature, mais auquel on prête des qualités fantastiques.
Quand on s'intéresse à la Grèce, on a l'impression que l'animal fantastique est très intégré à la mythologie grecque.
Oui, je pense que c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup d'autres mythologies. Dans les mythologies, nous avons bien entendu des dieux qui agissent, des héros, et puis des animaux qui aussi peuvent parfois être des animaux à peu près normaux, si je puis dire, mais aussi des animaux étranges, cheval ailé. Bon, un cheval qui vole, un cheval avec des ailes, comme Pégase. Et évidemment que ça n'appartient pas à la nature, que c'est un animal composite imaginaire. Alors, et ce cheval extraordinaire, on le trouve bien entendu en Grèce, Pégase, mais on le trouve aussi sous des variantes dans d'autres mythologies scandinaves, par exemple, avec un cheval à huit pattes qui court extrêmement vite. Bon, à chaque fois, on a des animaux naturels qui sont dotés de caractéristiques surnaturelles et qui donc interviennent régulièrement dans les mythes.
On a aussi beaucoup d'hybrides, le minotaure, le satyre, le centaure.
Oui, le satyre, à la limite d'ailleurs, le satyre, on pourrait voir au moins dans son image, hein, son aspect extérieur, une espèce de prolongement du fameux sorcier de la grotte des trois frères. Cette espèce d'homme, mi-homme, mi-animal, d'homme qui a soit des jambes animales, soit des caractéristiques, des parties animales. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Depuis donc la plus haute préhistoire jusque à nos jours, sans doute, en passant par évidemment la mythologie grecque ancienne et d'autres mythologies aussi. C'est quelque chose de vraiment tout à fait récurrent. Alors beaucoup de ces êtres fantastiques, de ces êtres extraordinaires, interviennent dans les mythes, donc clairement font partie de la mythologie, mais aussi ont été décrits par des auteurs qui avaient volonté de faire une œuvre de naturaliste.
Et la première grande compilation, c'est quoi ? C'est le Physiologus ?
Oui, bien sûr, qui est une source extraordinaire pour l'étude de tous ces animaux. Et quand on étudie le Physiologus, on voit bien là comment on peut passer du mythique au réel. Je pense par exemple aux cocadrilles. Espèce de reptile absolument fabuleux, cocadrille, reptile né d'un œuf de coq couvé par un crapaud dans un tas de fumier. Bon, c'est évidemment un animal parfaitement mythique, mais au XVIe siècle, quand les premiers voyageurs ont découvert les premiers crocodiles vus par des Européens, eh bien, ils ont reconnu le cocadrille qu'il connaissait déjà d'avance. Comment le connaissait-il d'avance ? Il le connaissait par le Physiologus et par tous les bestiaires qui en avaient perpétué la tradition.
Là aussi, on va retrouver des hybrides comme la sirène, par exemple.
Tout à fait. La sirène, elle aussi hérite en partie des traditions grecques, de la mythologie grecque, en partie peut-être de traditions antérieures, locales. Et on la retrouve aussi dans le Physiologus, puisque le Physiologus a été composé, il me semble, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la région d'Alexandrie, où vivaient là des érudits qui étaient les héritiers des traditions grecques antiques et qui avaient aussi intégrer des traditions égyptiennes et puis des récits, tous ces récits fabuleux colportés dans l'Orient et dans le Proche-Orient. Et le Physiologus a donc été une sorte de passeur vers nos traditions, nos propres traditions, qui nous permettent d'hériter à la fois de ces trois traditions différentes.
Physiologue dit que la sirène est faite à la ressemblance d'une femme jusqu'au nombril, et que dans la partie inférieure de son corps, elle ressemble à un oiseau. La sirène a un chant si doux qu'elle prend par traîtrise ceux qui naviguent sur la mer. Elle les attire vers elle par la grande douceur de son chant, et leur fait perdre conscience à tel point qu'ils s'endorment. Quand elle les voit endormis, elle se jette sur eux et elle les tue. Ainsi en est-il de ceux qui sont endormis dans les richesses et dans les plaisirs de ce monde et que leurs adversaires, à savoir les diables, tuent. Les sirènes symbolisent les femmes qui attirent les hommes et les tuent par leur cajolerie et par leurs paroles trompeuses, au point de les réduire à la pauvreté ou à la mort. Les ailes de la sirène, c'est l'amour de la femme qu'elle est prompte à donner et à reprendre. Pierre de Beauvais, Bestiaire. Des propriétés de la sirène, début du XIIIe siècle.
La sirène est un bel exemple d'animal composite mais instable, puisque...
Michel Pastoureau, historien.
Dans l'Antiquité, elle est plutôt oiseau, et à partir de l'an 1000, ou en tout cas du Moyen-Âge central, elle va devenir plutôt poisson, femme oiseau, femme poisson. On trouve d'autres créatures hybrides comme cela qui sont composites et instables, et certaines, au contraire, qui sont composites mais stables, comme le griffon, par exemple, qui est moitié aigle pour sa partie supérieure, moitié lion pour sa partie inférieure ou arrière-train, qui l'est déjà dans l'Antiquité la plus reculée, et qui, tout au long du Moyen-Âge, reste un animal mi-aigle, mi-lion.
Est-ce qu'on a des animaux, en dehors donc de ces deux grandes catégories, qui ne ressemblent vraiment à rien ?
Oui, on a des créatures composites, mais qui ne se retrouvent pas d'un document à l'autre, qui sont créées par l'imagination ou le savoir de tel ou tel auteur, de tel ou tel imagier, donc qui se livrent à un bricolage d'assemblage entre des éléments empruntés à différents animaux ou entre des éléments empruntés au monde animal, au monde humain, parfois au monde végétal, voire à des parties d'objets. Ce sont surtout des créations graphiques dans les marges des manuscrits. Par exemple, on a des hybrides que l'on qualifie souvent de grotesques, sur lesquels on ne peut pas mettre un nom d'espèce, entre guillemets, même d'espèce monstrueuse, tellement ils sont hybrides.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas les classer aussi par habitat ?
Oui, pour les monstres, les créatures imaginaires les plus récurrentes, il y a en effet ceux qui fréquentent le monde souterrain, le monde terrestre, le monde des eaux et le monde des airs, et puis certains qui appartiennent à ces quatre mondes, comme le dragon par exemple. Donc l'habitat, en effet, explique qu'on ne rencontre pas n'importe quelle créature n'importe où. Le plus grand danger, naturellement, c'est sous terre, parce qu'au Moyen-Âge, tout ce qui est souterrain est dangereux et diabolique.
En même temps, c'est le pays des reptiles.
C'est le pays des reptiles, donc ce sont les monstres rampants, ce sont les monstres qui vivent dans des cavernes, ce sont aussi ceux qui ont rapport avec l'eau, hein, entre le monde souterrain et le monde des eaux, il y a un passage fréquent, et la culture médiévale a peur de l'eau, spécialement quand il s'agit de l'eau de mer. Donc les animaux qui pour nous sont des mammifères marins, concept inconnu au Moyen-Âge, sont des monstres redoutables. La baleine est un monstre pour la culture médiévale, d'où l'histoire de Jonas, par exemple, racontée par la Bible, ce prophète qui a été avalé par un monstre marin et qui n'en est ressorti qu'au bout de 3 jours, après avoir prié Dieu dans le ventre de l'animal, est pensé comme un personnage qui a séjourné dans le ventre d'une baleine. Et cette baleine de Jonas est fréquemment représentée, naturellement n'a aucun rapport avec notre baleine telle que nous la connaissons, mais est un monstre composite qui fréquente les mers.
Et l'air, il a l'air assez pauvre.
Non, il y a dans les airs des monstres redoutables. Le griffon, qui est mi-aigle, mi-lion, est rangé au chapitre des oiseaux dans les encyclopédies, et c'est un monstre qui vole. Il y a des chimères qui ont des typologies variées. Ce sont des oiseaux à tête humaine, homme ou femme. Il y a également des dragons monstrueux qui volent au lieu de ramper ou de nager, ou qui, en plus du fait de ramper et nager, volent. Donc on trouve dans les airs un bestiaire redoutable et on a très peur de ce qui vient de l'air comme de ce qui vient de l'eau, parce que l'homme ne peut pas, lui, s'élever dans les airs.
Et le feu ?
Alors le feu, il y a des êtres imaginaires qui ont des rapports avec le feu. Le plus connu, c'est le phénix, qui est un oiseau plutôt pris en bonne part, qui présente la particularité de se jeter dans un bûcher quand il sent sa fin prochaine, au grand âge, et a la vertu de pouvoir se régénérer et de renaître d'une nouvelle vie après être passé dans les flammes, ce qui en fait, pour la symbolique animale, un oiseau associé à l'éternité, et donc un symbole du Christ ou un symbole de la vie et de l'immortalité.
On a la salamandre aussi.
On a la salamandre. C'est surtout l'époque moderne qui en parle, parce que François Ier a fait de la salamandre son animal emblématique personnel et l'a fréquemment mise en scène dans ses nombreuses possessions, dans ses châteaux, sur des œuvres d'art. Au Moyen-Âge, on en parle un peu moins, mais on sait que c'est une sorte de verre, comme on dit au XIIIe siècle, et qui a pouvoir de vivre dans les flammes sans jamais en souffrir aucunement. Et ça peut être pris en mauvaise part, en ce sens que tout ce qui vit dans les flammes, naturellement, est diabolique, ce sont les flammes de l'enfer, mais ça peut être pris aussi en bonne part, parce qu'à côté du mauvais feu, il y a un bon feu, c'est le feu salvateur et régénérateur de l'Esprit-Saint. Donc la salamandre peut être un attribut de l'Esprit-Saint, comme elle peut être un attribut du diable, ça dépend du contexte.
Michel Pastoureau, comment se fait-il qu'il y ait des animaux qui aient survécu, si on peut dire, et d'autres dont on parle peu? Aujourd'hui, par exemple, tout le monde connaît la licorne, mais personne ne connaît la leucrocote.
Le crocote, manticore, caladre et d'autres noms, nycticorax, des noms un peu difficiles à prononcer. Oui, c'est vrai, ça dépend des récits qui nous en parlent, ça dépend de leur typologie formelle et fonctionnelle. La licorne, le griffon, le dragon, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. La manticore, par exemple, a complètement disparu de notre imaginaire. Il s'agit d'un quadrupède, monstrueux en ce qu'il a une tête humaine. Dans les images, on lui donne même un bonnet, souvent. Une triple rangée de dents. Ce quadrupède a une double particularité. Il ne se nourrit que de chair, et la chair qu'il préfère, c'est la chair humaine. Donc c'est un ennemi redoutable. Et il court extrêmement vite. C'est l'animal le plus rapide de la création. Donc on ne peut pas lui échapper. Eh bien, ce monstre épouvantable a disparu du bestiaire symbolique et assez tôt, je crois qu'à la Renaissance, on n'en parle plus guère, parce qu'il a été éliminé par d'autres espèces. On peut dire que, au fond, il y a une sorte de regroupement qui s'opère dès la fin du Moyen-Âge, mais surtout entre le XVe et le XVIIe siècle. Un tri se met en place et seules quelques vedettes ont survécu et valent pour tous les autres.
Comme la licorne, pardon.
Comme la licorne. La licorne qui est un être imaginaire composite, peu importe quelles sont ses origines du côté de la faune véritable, rhinocéros, antilope, etc. Dans les images et dans les textes, c'est un quadrupède qui a le corps soit d'un cervidé, soit d'un cheval, des pattes de taureau, ou d'âne, ou de cheval, ou de lion, une queue qui est en général développée, une tête de chèvre ou de cheval, et surtout, sur le front, une très longue corne torsadée qui passe pour avoir des vertus merveilleuses, notamment des vertus purificatrices, pour éloigner le poison, d'où dans les trésors d'abbaye, dans les trésors princiers et royaux, des cornes de licorne que l'on conserve précieusement, qui sont en fait, en général, des cornes de narval, et une très belle légende, qui met en scène cet animal et une jeune fille, légende héritée de l'Antiquité, mais qui veut que la licorne soit très difficile à capturer, et on cherche à s'emparer de sa corne, naturellement. Donc les chasseurs utilisent une ruse. Comme cette licorne est attirée par tout ce qui est pur, elle-même étant très pure, seule une femme vierge, une jeune fille vierge, a le pouvoir de la séduire. Donc les chasseurs installent une vierge quelque part dans la forêt, attirée par l'odeur de virginité. La licorne s'approche, pose sa tête sur le sein de la vierge et les chasseurs, par derrière, traîtreusement, s'emparent de l'animal.
La licorne est une bête redoutable, dont le corps ressemble un peu à celui du cheval. Mais elle a le pied de l'éléphant et une queue de cerf. Et sa voix est tout à fait épouvantable. Au milieu de sa tête se trouve une corne unique, extraordinairement étincelante, et qui a bien 4 pieds de long. Mais elle est si résistante et si acérée qu'elle transperce sans peine tout ce qu'elle frappe. Et sachez que la licorne est si cruelle et si redoutable que personne ne peut l'atteindre ou la capturer à l'aide d'un piège quel qu'il soit. Il est bien possible de la tuer, mais on ne peut la capturer vivante. Cependant, les chasseurs envoient une jeune fille vierge dans un lieu que fréquente la licorne, car telle est sa nature. Elle se dirige aussitôt tout droit vers la jeune fille en abandonnant tout orgueil et elle s'endort doucement dans son sein, couchée dans les plis de ses vêtements. Et c'est de cette manière que les chasseurs parviennent à la tromper. Brunetto Latini, Livre du Trésor, XIIIe siècle.
Michel Pastoureau, quand on regarde aujourd'hui ces êtres fantastiques au Moyen-Âge, est-ce qu'on risque pas de tomber dans le piège de se tromper de monde? Parce qu'au Moyen-Âge, il y a les animaux réels, il y a les animaux fantastiques, mais la frontière est un peu floue entre les deux.
La frontière est floue et l'historien retrouve là quelque chose qu'il connaît bien, le danger de l'anachronisme, en l'occurrence celui qui consiste à projeter dans le passé nos savoirs, nos classifications, nos logiques d'aujourd'hui. Si on procède de cette façon-là, on ne comprend rien aux sociétés du passé. Donc il faut absolument étudier ces animaux monstrueux, chimériques, fantastiques, mis en scène par les documents médiévaux, par rapport au savoir, aux valeurs, aux sensibilités du Moyen-Âge lui-même. Et là, on comprend mieux, en effet, que la frontière, comme vous venez de le dire, est floue entre le monde réel et le monde imaginaire. Le dragon, la licorne, le griffon sont des animaux qui font partie de la vie quotidienne. On les voit partout. Ils sont sculptés dans les églises, sculptés ou peints dans les églises. Les fidèles, pendant la messe, ont leur regard qui tombe constamment sur ces espèces animales. De même, il ne faut pas mettre une frontière trop forte entre les animaux indigènes et les animaux exotiques. Les animaux exotiques, qu'ils soient réels ou imaginaires, font partie également de la géographie de l'Europe occidentale tout au long du Moyen-Âge, que ce soit le lion ou le dragon.
Et d'où viennent toutes ces créatures ? De l'Orient ?
L'Orient est le grand réservoir du surnaturel et du merveilleux. Donc les monstres, les animaux chimériques viennent pour l'essentiel de l'Orient. C'est à la fois vrai pour ce qui concerne les œuvres d'art, les images, c'est vrai aussi des textes. D'ailleurs, la plupart des bestiaires commencent par une phrase « Il y a en Inde une bête merveilleuse qui, que, etc. » C'est le début obligé pour capter l'attention de l'auditeur, mais aussi pour mettre en scène un merveilleux qui ne peut avoir son réservoir que du côté de l'Orient.
Dans ce même pays, on trouve la bête nommée Éale. Elle ressemble à un sanglier par devant, mais sa queue est celle d'un éléphant. Elle n'a que deux cornes, chacune longue d'une toise. Quand elle doit combattre, elle en couche une sur son dos et se bat avec l'autre. Est-elle fatiguée d'utiliser celle-ci ? Elle la couche et lutte avec l'autre. Cet animal ne craint que les pans noirs et est aussi hardi sur terre que dans l'eau. On rencontre dans ce pays des taureaux jaunes au poitrail de sanglier. Leur gueule est fendue jusqu'aux oreilles. Ces taureaux combattent avec leurs cornes, comme l'animal que j'ai décrit précédemment. S'ils sont capturés, nul ne peut les dompter. Dans cette même contrée, une bête s'appelle Manticore. Sa tête est faite comme celle de l'homme, mais ses dents et le reste de son corps ressemblent à ceux du lion. Sa queue rouge sang s'apparente à celle du scorpion. Quand la manticore siffle, on croirait entendre une vipère. Elle court plus vite que ne vole l'oiseau et ne se nourrit que de chair humaine. Là encore, vit l'animal nommé Monocérose. Il ressemble à un cheval, sa tête à celle d'un cerf, ses sabots à des pieds d'éléphant et sa queue à celle d'un porc. Il n'a qu'une corne, tranchante comme un rasoir. Cette bête est terrible et tue de sa corne tout ce qu'elle rencontre. Sur les rives du fleuve qui traverse ce pays, vivent des anguilles longues de 30 pieds. Dans les eaux du dit fleuve, il y a des reptiles semblables à des crabes. Ils possèdent deux bras de 6 aunes et sont si puissants qu'ils capturent les éléphants et les entraînent au fond de l'eau. Près de ce fleuve, on trouve des escargots de si grande taille que les gens se font des habitations de leurs coquilles.
Claude Lecouteux, ce texte de la fin du XIIe siècle attribué à Lucidarius est une mine de renseignements pour qui veut se rendre en Orient. Mais est-ce qu'on y croit ?
Je pense qu'il y a une question de vraisemblance. C'est-à-dire que nos ancêtres avaient tout de même un solide bon sens. Et lorsque l'animal est trop composite, les savants ont bien vu qu'il n'était pas viable. Et ils ont formulé, ils ont écrit, ils en ont parlé... Ils ont dit qu'il n'est pas viable, que c'était vraisemblablement une chimère, une invention ou une incompréhension d'une réalité. Et de ce fait, ces animaux ont été en quelque sorte privés de crédibilité. Le résultat, ils ont été moins populaires que les autres.
Et est-ce que la popularisation de ces animaux au Moyen-Âge n'est pas le fait d'iconographes et non plus de textes ?
Je crois qu'il faut prendre les deux. Les représentations de ces animaux sont relativement rares avant la fin du Moyen-Âge, là où vous commencez à avoir énormément de bois gravés. Avant, c'est essentiellement le texte qui prédomine. Alors, on possède quelques manuscrits du XIIe siècle, par exemple, des bestiaires, dans lesquels on trouve énormément d'animaux fabuleux et qui sont peints. À l'intérieur, vous avez de splendides miniatures. Alors, on rencontre, par exemple, la marticore. Alors la Marticore, le texte nous dit, c'est un animal qui possède 3 rangées de dents. Alors, le dessinateur ou l'enlumineur vous montre un espèce de, théoriquement, un espèce de lion, hein, avec la gueule ouverte et 3 rangées de dents, mais superposées les unes au-dessus des autres, alors que dans le texte, vous avez 3 rangées de dents les unes derrière les autres. Et la Marticore, qu'on appelle aussi Manticore dans les textes, etc., et même Marincomorion, ce qui est complètement ahurissant au point de vue des formations, c'est la vision mythique du tigre.
Les animaux fantastiques, des créatures vieilles comme le monde, avec aujourd'hui la participation de Jean-Loïc Lequélec, ethnologue, Michel Pastoureau, historien, et Claude Lecouteux, médiéviste. Texte dit par Catherine Laborde, le cabinet de curiosité, Sylvain Baracchetti, Bernard Charon, Malika Mesgache, Jacques Cogé.
C'était le premier de 5 épisodes de la série « Les animaux fantastiques » de Jacques Cogé pour le cabinet de curiosité. Première diffusion le 23 février 1998 sur France Culture. À suivre.